Voilà. Alors, une question de Louise. Comment arriver à vivre dans le monde actuel quand on est câblé depuis la naissance sur les autres dimensions et que ces câblages s'accentuent depuis 2009 et surtout là maintenant? Eh bien, qu'est-ce qu'on demande de comment arriver à vivre dans le monde actuel? On ne demande pas de vivre dans le monde actuel de 3D et de faire comme des gens de 3D. Fais ce dont tu dois faire, ce que tu dois faire. C'est-à-dire, tu es câblé pour des choses? Eh bien, voyage. Qu'est-ce qui t'empêche de voyager? Quand tu voyages, est-ce que tu es forcément en train de travailler ou en train de causer avec quelqu'un? Non, c'est quand tu dors, quand tu te reposes, quand tu es chez toi, quand tu es cool. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vivre dans d'autres dimensions? Simplement, tu sais qu'il y a plusieurs mondes. Il y a celui dans lequel ton corps vit et où il y a un certain nombre de règles, de lois. Donc, tu les respectes afin d'éviter les emmerdes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu les imites aussi dans tout le reste, c'est-à-dire dans l'ignorance et la non-connexion aux autres dimensions. Donc, si tu es câblé, eh bien, utilise le câblage. Comme je l'ai dit juste avant, quand on a un don, c'est fait pour l'utiliser. C'est pas fait pour planquer, hein. Voilà, Louise. Sinon, une question de Caroline. Mon grand-père a une fréquence vibratoire très très basse et je ne supporte plus d'être en contact avec lui. Je suis actuellement enceinte et je suis encore plus sensible à cela qu'avant. J'ai l'impression que tout mon être me dit de couper le contact avec cette personne. J'ai la sensation que mon bébé n'a également pas du tout envie de le connaître. J'ai vraiment l'impression que ce message vient de mon âme, mais en même temps, je me demande si c'est juste de couper les ponts. Et là, voilà. Donc le discernement, c'est d'agir en fonction de ce que l'on ressent, et pas de ce que l'on pense. Donc là, la réponse est claire, nette et précise. Tu coupes les ponts, point barre. Mais quand on dit couper les ponts, ça ne veut pas dire aller voir ton grand-père, lui foutre deux baffes, claquer la porte et dire « je ne veux plus te revoir de ma vie ». Rien. C'est tout simplement de ne pas aller le revoir. Et avec le temps, la relation va s'estomper. Parce que en élevant sa vibration, on n'est plus sur la même bande de fréquence. Donc si on n'est plus sur la même bande de fréquence, ben, ton grand-père sera à la rigueur, se rappellera même pas que tu es là. Et donc les ponts vont se distendre au point qu'arrivé un moment, ils n'existeront plus. Mais il ne faut pas agir selon les voies de la 3D, c'est-à-dire de celle de rendre la chose consciente et brutale, on va dire. Donc, t'as pas envie de le voir? Garde ta paix intérieure et ne va pas le voir. C'est tout. T'es enceinte, tu dis, je suis fatiguée. Non, c'est pas possible. On se reverra une autre fois plus tard. Et puis tu verras que si tu es en paix et avec toi-même, eh bien, les choses se passeront de telle sorte que ton grand-père se rappellera même plus que tu es là, d'une certaine manière. Le temps passera vite pour lui, sans il se rendra pas compte que les semaines passent, les mois passent et qu'il t'a pas contacté. Donc écoute ce que ton être te dit et agis avec douceur et peinard. Donc va pas lui dire, grand-père, je ne vais plus te voir parce que t'es un mec de très basse vibration. Non, rien. Laisse-le dans l'ignorance. Parce que sinon, ça va être la guerre. Alors une question de Tara, là encore, sur le karma de Gaïa. Est-ce que le karma lourd de Urantia Gaïa est finalement proche du solde de tout compte, où il y en a encore un gros morceau pour elle et donc pour nous aussi. Qu'il asquat-on. Enfin, quoi qu'on fasse, doit-on nous aussi payer son karma? Alors, la Terre n'a pas de karma en tant que telle, puisque elle n'est pas là pour expérimenter la dualité comme nous. Elle est un support. Hein? C'est une entité support, c'est-à-dire qu'elle a accepté, comme toi, quand tu as des champignons, ou enfin, je veux dire, des choses qui viennent te squatter sur toi, ce qui vient te squatter, ben, ils ont des soucis, mais ils n'ont rien à voir avec toi. Donc, concrètement parlant, la Terre, Urantia Gaïa, n'a pas de karma. Donc, c'est nous, par nos conneries, qui avons créé le karma. Le karma, on va dire un karma négatif. Puisque quand nous sommes dans la dualité, il y a bien sûr deux karmas, il y a le positif et le négatif. C'est-à-dire que un karma positif, ça veut dire que tu as marché dans le bon sens et donc tu as accumulé des dons, des qualités. Par contre, quand c'est du karma négatif, là, bah, on s'en rappelle, quoi. C'est-à-dire que ça va devoir revenir sur la table, parce que c'est comme un banquet. Quand ton compte est positif, il ne vient pas te faire chier. Par contre, quand ton compte est négatif, alors tu sais qu'il existe. Eh bien, c'est ça. Donc, la Terre, en tant que telle, quelque part, elle n'a pas de dette par rapport à d'autres planètes ou d'autres choses. Donc, elle a un solde à zéro, elle n'a même pas de compte bancaire. Par contre, nous, on a un compte bancaire par rapport à elle. Donc, si ton compte bancaire à toi est positif vis-à-vis d'Urantia, c'est-à-dire que tu respectes ce qu'elle est, que tu ne prélèves que ce dont tu as besoin véritablement pour vivre, si vraiment tu vis avec elle et en plein respect de ce qu'elle est, alors ton compte sera positif et donc il n'y aura pas de karma pour toi. Par contre, si tu te la vis 3D comme la majorité des gens, c'est sûr que là, quelque part, tu vas avoir quelques agios, ça c'est évident. Mais elle, son but, comme elle n'a pas de compte en banque, c'est pas de te faire payer des agios. Donc, tout simplement, c'est que elle va continuer son chemin là. Elle dit, bon voilà, pendant un certain temps j'ai avancé, enfin, j'ai supporté, on peut dire, les gamineries, mais maintenant, bon, j'aimerais passer au stade suivant, quoi. Donc, c'est un article d'ailleurs qui paraîtra lundi, hein, juste pour votre gouvernance. Orantia Gaïa, c'est elle qui donne le ton, parce qu'elle est notre corps physique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, notre corps physique, c'est pas nous qui avons décidé de comment il allait grandir et de comment il allait s'organiser pour être ce qu'il est. Donc globalement, nous, on peut dire, les morpions entre guillemets à la surface, eh bien, nous ne pouvons que suivre l'évolution de fréquence d'Orantia. Et donc, si maman Orantia, comme dirait l'autre, élève sa fréquence, bah, ceux qui ne voudront pas l'élever, bah, il ne va pas y avoir 36 trucs. Hein. C'est que poussière, tu redeviendras poussière, parce que ce qui appartient à maman Gaïa, comme on dit, bah, il va revenir à maman Gaïa. Et puis, bah, le chauffeur de mes deux, entre guillemets, qui voulait rien savoir, eh bien, il va retourner là-haut, et puis on va lui dire, bah, écoute, tu t'es fait évacuer, parce que franchement, t'as pas vu qu'il y avait une déviation et que bah, dans l'autoroute, elle est venue à sens unique, mais dans le sens inverse maintenant. Hein? Non. Donc, quelque part, les gens qui ne voudront pas suivre la voie de Maman Orantia, de toute façon, décamperont du terrain, d'une manière ou d'une autre, mais bon, la manière, on la connaît, hein, et partiront, plus ou moins vite. Hein? Alors, ça ne sera pas forcément du catastrophisme, tsunami ou quelque chose comme ça. Ça sera tout simplement, puisque leurs fréquences ne sont plus en accord avec la fréquence de maman, comme on dit, eh bien, ils auront des cancers, ils auront des trucs qui vont faire que leur corps physique va claquer. Point barre. C'est la façon normale, on va dire. Hein? Voilà. Donc, quelque part, on n'a pas à s'occuper du karma de moment, puisque d'une certaine manière, elle n'en a aucun karma par rapport à nous. Hein? On est d'accord. Évolution de l'humanité, une question de Seb. Par rapport à l'analogie enfant 3D, ado 4D, 5D, peut-on considérer que le nombre d'habitants sur la planète est un indice de la maturité collective de l'humanité terrienne, au même titre qu'un ado a beaucoup plus de cellules qui composent son corps qu'un enfant? Alors je réponds rapidement, ben oui, forcément. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que le corps de l'humanité est arrivé à un maximum, enfin presque, hein, donc on est déjà à 7 milliards. Bon, ce qui est programmé, il ira vers les 9, voire 10 milliards, mais je pense qu'il va y avoir des correctifs assez lourds qui va faire qu'on ne va pas aller si loin que ça. Mais néanmoins, il est sûr et certain que la quantité de gens qu'il y a actuellement sur Terre est trop importante par rapport aux ressources que la Terre peut fournir pour donner à bouffer à tout le monde. En clair, même s'il y en a qui rêvent qu'on fera des plantes, etc., enfin, bon, des tas de trucs, il faut comprendre, c'est que dans l'état actuel, la Terre dépassera pas, on va dire, 2020, quoi. C'est-à-dire que si on continue nos conneries comme on fait là maintenant, ben, en 2020, ça s'arrête, quoi. À quelque chose près, quoi. Il faut savoir que le taux de renouvellement, hein, c'est juste un truc, c'est que vous savez, quand vous allez dans votre jardin et que vous ramassez vos légumes, vous savez que si vous les ramassez plus vite que ce qu'ils sont capables de pousser, bah, arrivé à un moment, vous allez crever la dalle, quoi. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, j'ai mis une planche de carottes et que j'arrache 3 kilos de carottes toutes les semaines, sachant que de toute façon, si vous allez à ce rythme-là, vous aurez de quoi bouffer jusqu'au mois d'août, puis qu'après, ben, il n'y aura plus de carottes, quoi. Ben, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de renouvellement sur Terre des ressources est de l'ordre que pratiquement à partir du mois d'août, enfin je sais plus c'est du combien, mais à partir du, allez, on va dire 10 août, tout ce qu'il y a après, c'est famine. C'est-à-dire que tout ce que nous prenons entre le mois d'août et le mois de décembre, c'est du destructif pur. En clair, quand on continue à ce régime-là, eh bien chaque année qui va passer, eh bien on passera à juillet, et puis après à juin, et puis ben, quand on se dira, bah ben oui, on attaque l'année au 1er janvier, mais au 15 janvier, on aura déjà épuisé la capacité de renouvellement de la Terre, vous imaginez que ça va être dur de vivre les 330 jours qui restent. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un état très particulier qui correspond au processus de l'ascension, on est d'accord, et qui fait qu'il y a donc un maximum, on va dire, d'incarnation. Hein, ça, dans mes conférences, j'en parle, et je crois que j'en ai parlé dans les articles. Donc, je continue la question de Seb. Et puis, au stade de la majorité, puis de l'adulte, existe-t-il encore une forme d'individualité, pas au sens 3D brut, mais dans le sens individu intégré dans l'un? Au fur et à mesure que l'on remonte vers le tronc de l'arbre, il doit y avoir pas mal de rassemblements, fusions. Oui, on aura toujours une individualité, hein, mais on sera indivisé, c'est-à-dire qu'on fera un. Et donc forcément, plus nous nous rapprochons du tronc de l'arbre, plus nous découvrons que les autres sont une partie de nous-mêmes, d'une certaine manière. Donc, pour finir, comme il met, finalement, les ados en devenir que nous sommes sont encadrés par des monos galactiques avec possibilité d'aller se balader avec eux ou pas. Eh bien, effectivement, nous avons des parents, c'est évident. Ils nous accompagnent. Alors, on leur a donné des noms, on s'appelle les Pléiadiens, les Arthuriens, etc. Parce que ce sont nos parents, oui. Donc, quand nous allons effectivement revenir à un état vibratoire suffisant pour les regarder en face dans les yeux, comme on dit, eh bien, c'est sûr qu'on sera revenu dans la famille. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'au niveau de la Terre, on ne sera pas des suceurs de première comme on est aujourd'hui, quoi. Hein? On regardera la Terre d'une manière tout à fait autre. Et puis, je dirais que pour un certain nombre d'entre nous, on aura pu être sur Terre. Parce qu'on aura dit, bah écoute, il était pas mal le bac à sel, je me suis bien amusé, mais maintenant j'ai plus rien à y foutre, je passe à autre chose. Donc c'est pas parce qu'on est aujourd'hui des Ourantiens que on va le rester pendant les éternités. Non. On sera comme tout individu qui a un CV, on dira ben, dans quel collège vous avez été, puis après dans quel lycée, et dans quelle université, mais c'est pas parce que tu as été dans tel lycée que tu vas y rester toute ta vie. Non, tu as eu un passage, tu as eu un moment de ton évolution fait à cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire que tu vas y rester toute ta vie. La vie continue, comme on dit. Hein. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes des Ourantiens aujourd'hui que l'on sera Ourantiens demain. Mais on aura dans votre CV une petite plaquette, enfin une petite ligne disant, voilà, j'ai fait mes classes chez Orantia Gaïa. Karma et reconnexion. Une question de Karine. Deux âmes qui se sont déjà rencontrées dans d'autres vies et qui n'arrivent pas à dépasser leurs problématiques à notre époque, soit l'amour entre un homme et une femme qui se sont déjà connus maintes fois, vont-elles réussir à dépasser leur karma commun avec l'ascension que nous allons connaître? Je suis persuadée de connaître un homme depuis des éons, peut-être est-ce moi l'homme dans d'autres vies, et j'ai l'impression que nous n'arrivons plus à accorder nos violons. Bien, alors, la question de Karine est relativement simple, mais basé sur, je dirais, une notion de dualité de 3D. C'est-à-dire, voilà, moi femme, toi homme, on doit faire union, point barre. Donc on reviendra aussi souvent qu'on peut sur Terre, mais on doit rester unis, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une réaction, excusez-moi, de 3D pure. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons effectivement des interactions nombreuses avec d'autres personnes à travers nos multiples vies, on va dire, antérieures. Ça, c'est normal, mais cela ne veut pas dire que parce que vous êtes copain ou copine avec quelqu'un au lycée, qu'il va falloir rester en permanence uni à lui, envers et contre tout, alors que vous passez à l'université, alors vous avez choisi les sciences exactes et puis l'autre, il a choisi, je ne sais pas, la littérature. Vous n'allez pas être dans la même université. Donc, l'idée même de vouloir dépasser les problématiques d'union entre deux individus malgré les multiples interactions dans les vies antérieures n'est qu'une vision 3D, entre guillemets. Nous sommes là pour nous entraider les uns les autres. Et s'entraider, ça ne veut pas dire simplement faire que du bon à quelqu'un. Le rôle de la dualité, c'est de nous faire vivre ce que nous avons fait vivre à d'autres. Donc, si tu as violé quelqu'un, bah, à son tour, elle te violera. C'est tout. Donc, tu vas me dire, ah ouais, violeur, c'est pas bon, tati, tati, tata. Oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, toutes les choses que nous le faisons à nous-mêmes. Simplement, ça sera décalé dans le temps et ça sera peut-être pas la même tête, le même nom patronymique, comme on dit. Mais de toute façon, vous allez forcément vivre ce que vous avez fait vivre à l'autre, afin de savoir et de comprendre ce que vous avez fait. C'est ça l'école de la dualité. Donc il n'y a ni bon ni mauvais. Puisque si à un coup il y en a un qui c'est le bon et puis l'autre c'est le mauvais, le coup suivant, ben, on inverse les rôles. Donc comme dire l'autre, on met la balle au centre et on continue. Hein. Mais c'est qui a dit qu'il fallait s'asseoir dans le terrain central, autour du ballon, et dire ça y est, on fait un. Non, c'est que pour l'instant, au niveau de Karine, bah, c'est que ça continue à jouer au foot, on est dans un terrain, on est dans l'autre, mais une chose est claire, c'est qu'on n'est pas dans le rond central en disant ça y est, balle au centre. Non, non. Il n'y a pas eu assez de buts ou le match n'est pas fini, quoi. Voilà. Donc accordez vos violons. Et ben en fait, il n'y a peut-être pas forcément d'accord de violon à faire, tout simplement. Lumière et moindre lumière. Une question de Françoise. Dans un article, tu nous dis que le chakra du cœur est invisible à l'œil nu, mais totalement visible de toutes les entités de tous les univers. Question. Nous, préhumains, nous savons reconnaître que ce que nous connaissons en est de que ce que nous connaissons, en est-il de même des méchants itis ignorant l'amour, la compassion, donc censément incapables de reconnaître un chakra cardiaque allumé de tous ses feux? Bref, sommes-nous des cibles potentielles et privilégiées à détruire ou ignorent-ils ces loupiottes vacillantes dans un fond vaseux? Alors, il est clair que les méchants itis, ce sont simplement des itis de 3D. Eh oui, la 3D, c'est du mental. C'est du mental égo. C'est de la compétition. C'est de la séparation. Mais c'est aussi de la technologie. Donc, plus nous restons coincés, on va dire, en 3D, et plus le niveau technologique va s'améliorer, on est bien d'accord. Mais en fait, c'est une dégradation par rapport à ce que nous sommes. Si aujourd'hui vous avez un téléphone portable, c'est parce que vous avez perdu votre capacité télépathique. Si aujourd'hui on a des tracteurs avec des charrues et tout ça, c'est parce que nous avons perdu nos capacités de co-créateur en disant, écoute, là, je voudrais une maison là, comme ci, comme ci, comme ça, et que ça se fabrique tout seul. En fait, la technologie, c'est l'inverse de l'évolution. Plus nous devenons hautement technologiques, plus nous nous éloignons de nos propres capacités. Voilà pourquoi que je souris face aux scientifiques. Parce que quelque part, c'est une voie sans issue, mais c'est une voie d'exploration. Et donc, quand on aura compris que on peut fabriquer tous les vaccins du monde, ça n'arrêtera jamais le cancer. Vous pouvez continuer à verser autant de sous que vous voulez, ça sert à rien. Si juste à entretenir des gens qui se disent, bah, puisque je suis chercheur, j'ai fait des études pour pouvoir faire chercher, mais de toute façon, comme je cherche, je ne trouverai pas, et de toute façon, je n'ai pas à trouver quelque chose, puisque l'objectif, c'est simplement d'avoir une paye. Mais pour avoir une paye, il faut qu'il y ait des gens qui donnent des sous, quoi. Donc, pour moi, des chercheurs, des scientifiques, tout ça, des gens qui se posent la question du Big Bang et qui vont passer leur vie à regarder les étoiles en pensant qu'ils vont découvrir une vérité, pour moi, c'est simplement des gens qui passent leur temps à... Enfin, ils ont trouvé un alibi, entre guillemets, pour simplement attendre la retraite. Je sais que ça peut être dur pour beaucoup, mais quand vous regardez suffisamment loin, vous verrez qu'on n'est pas vraiment loin de la vérité. Donc, pour parler des méchants E.T., ben les méchants E.T., ce sont des gens qui sont technologiquement plus avancés que nous, mais qui, dans la mentalité, sont au même niveau que nous. En clair, si tu as le cœur qui brille de tous ses feux, ben ils verront rien. Au même titre qu'un préhumain qui voit que dalle. Voilà. Donc, si tu y vas peace and love, et l'autre il dit c'est quoi la greluche qui vient là? Il prend son flingue laser, ce que tu veux, et puis il flingue quoi. Il dira ça me voulait là. Voilà. Vous voyez, c'est facile. Donc, si par contre vous avez des E.T. qui sont en 4D, voire au-dessus, bah, ils ont bien sûr dépassé la notion technologique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de technologie, mais ils ont dépassé cette notion technologique, donc dépassé la notion de domination, donc la notion de mort. Puisque quand on passe en 4D, c'est l'amour inconditionnel, c'est le don inconditionnel, c'est le respect total. Donc, si un bon E.T., c'est un E.T. qui a un niveau de conscience qui est établi en 4D et plus. Un mauvais E.T., eh ben, c'est simplement quelqu'un qui est toujours dans la mentalité de 3D, mais avec une technologie un peu plus avancée que la nôtre. Voilà. Voilà le résumé. Donc en clair, dit autrement, un méchant E.T., ben, il est aussi aveugle que les autres. Simplement, il a un flingue plus gros que le tien, c'est tout. L'amour inconditionnel, là. Une question de Jean-Louis. Le super piège du mental est de nous faire croire que l'on peut être toujours plus dans l'amour inconditionnel, entraînant des frustrations dans la relation, tout en nous plombant complètement, en tournant le dos à notre joie d'être vivant. Voir notre mental à l'action va-t-il suffire à nous délivrer? Alors, quand je parlais de don inconditionnel, hein, ou d'amour inconditionnel, eh bien, ça, c'est une vision, effectivement, de 3D, où le mental ego, bien sûr, fait toutes les magouilles inimaginables pour continuer à vous faire vivre dans son illusion, dans son monde à lui. Dans la réalité, le véritable amour inconditionnel est irrémédiablement rivé à la sagesse. Et vous savez, la sagesse, ça vient du grec sagos, qui veut dire être en équilibre. Donc, être en équilibre, ça veut dire celui qui a équilibré son masculin et son féminin. En clair, si tu offres quelque chose à quelqu'un, c'est que tu es en équilibre. Si par contre, tu as un des plateaux de la balance qui penche sérieusement, tu ne penses pas à donner à ce moment-là. Tu penses d'abord à rétablir l'équilibre. Donc le don inconditionnel de 4D est une chose qui peut se faire uniquement quand vous êtes en équilibre avec vous-même. Et si vous êtes en équilibre avec vous-même, vous êtes en joie. Donc là, ce qu'exprime Jean-Louis, c'est que tout simplement, si son don inconditionnel, son amour inconditionnel lui amène des frustrations dans la relation, c'est parce qu'il n'est pas en équilibre. Et donc que cet amour inconditionnel est un amour inconditionnel mentalisé. J'espère que vous comprenez la différence. Vous ne pouvez offrir véritablement et inconditionnellement qu'à la seule condition d'être établi dans votre équilibre, dans votre sagesse. Voilà pourquoi la sagesse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, d'ailleurs, elle est en français au féminin, parce que c'est une qualité féminine, la sagesse. Parce que c'est vibratoire, c'est un état d'équilibre. C'est pas de la matière. Quand vous prenez le plateau de la balance, vous dites ouais, c'est bien de la matière. Mais l'équilibre, c'est pas de la matière. C'est une vibration qui est à l'intérieur de la matière et qui fait que d'un côté, c'est aussi fort que de l'autre. Voilà. Donc, en 4D, la sagesse va primer sur la connerie, on va dire. Et la sagesse, c'est d'abord être en équilibre avec soi-même. Et donc, si vous êtes en équilibre avec vous-même, eh bien, à ce moment-là, vous offrirez tant que vous ne serez pas en déséquilibre. Mais si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, vous arrêterez de donner. parce que vous serez en train de regarder votre déséquilibre et dire, hey, tiens, il y a quelque chose qui déconne là, on appuie sur un de mes plateaux, c'est quoi le truc là? Et donc si vous vivez dans votre icité, vous discernerez immédiatement là où ça coince. Donc si quelqu'un vous déséquilibre, c'est qu'un des plateaux de la balance, eh bien ça veut dire que quelque chose, consciemment ou inconsciemment, est entré sur un des plateaux. Donc là, il y a l'alarme qui se met en route, qui dit « Attends, là, je ne suis plus tout à fait centré, donc il y a un truc là. » Il y a un truc là. Bon, j'espère, Jean-Louis, que tu comprendras ce que j'ai voulu dire. Hein. Donc, regarder son mental en action, va-t-il suffire à nous délivrer ? Va-t-il suffire ? Non. Non, parce que quand vous êtes en déséquilibre, ce n'est pas votre mental que vous regardez. Donc, c'est un élément parmi d'autres. Passons à une question de Gabriel. Comment être une femme qui ne serait pas détournée de son soi par son devoir de mère et ou d'épouse dévouée? J'aspire vraiment à être mère, à avoir un enfant et connaître cette grande expérience que de créer et porter une autre vie en soi. Et en même temps, je souhaite continuer à cultiver mon soi. Vous qui avez des enfants, qu'en pensez-vous? Comment gérez-vous tout cela? Alors, là, la réponse est relativement simple. Déjà, pourquoi mettre en opposition, je dirais, à cultiver son soi et avoir un enfant? Je ne vois absolument aucune opposition. Je dirais même qu'il peut y avoir une grande complémentarité. Car être enceinte actuellement, c'est aussi se dire que l'âme d'un autre esprit, qui est forcément celui d'un enfant cristal, voire d'un enfant diamant, va venir, comme dirait l'autre, en colocataire, d'après toi. Cela va-t-il être négatif ou positif à ton avancement? Donc, au lieu de penser opposition en disant « Oui, mais il y a quelqu'un en moi et si je m'en occupe, alors je ne pourrai pas m'occuper de moi », non, c'est faux. Parce que, en fait, quand tu auras un enfant dans le ventre, eh bien, c'est pas toi qui dis, bon, bah écoute, il faut me développer les cellules, machin. Tu n'as rien à faire. C'est automatique. La seule chose que tu puisses faire, c'est être. Et entendre et écouter cette nouvelle âme qui est en toi. Donc, je ne te dis pas tombe enceinte. Je te dis simplement, ne regarde pas, enfin, change ton regard sur la chose. Si ta petite voix te dit ça serait vachement intéressant que tu tombes enceinte, enfin je veux dire, de toute façon, si tu es dans ton icité, tu tomberas enceinte. Mais si tu n'es pas dans ton icité, tu te poseras toujours la question si c'est ok, pas ok, etc. Et puis même si tu tombes enceinte, tu diras oui, mais c'était pas volontaire, je ne savais pas, tu seras dans la confusion. Laisse faire les choses, aie confiance dans ce qui est, et tu verras bien si tu tombes enceinte ou pas. Si c'est le cas, c'est que tu en as besoin pour ta progression. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça n'allait pas forcément te rendre service maintenant parce que tu n'es pas prête. Voilà. Donc, la peur, entre guillemets, de ne pas connaître cette grande expérience de l'enfantement, t'inquiète, ça c'est que de la 3D. Donc, être femme ne veut pas dire avoir eu des enfants. Du tout. L'élasticité du temps. Une question de Florence. Il y a peu, les journées s'écoulaient à une vitesse folle et depuis quelque temps, je trouve celui-ci plus lent. Les choses à faire sont faites en temps et en heure et il me reste du temps. Est-ce moi ou cela est-il normal? C'est pleinement normal puisqu'on a dit que le temps allait être élastique. Donc ça veut dire que la propriété première d'un élastique, c'est qu'on peut l'étirer comme on peut le comprimer. Hein? Donc si à des moments le temps est comprimé, c'est-à-dire qu'il passe très vite, il y a des fois il sera décomprimé. Ça veut dire qu'il passera très lentement. Hein? Donc c'est parfaitement normal. Une question sur les intraterrestres. Une question de Tara. Quand tu parles d'amis intraterrestres, tu parles d'êtres de cinquième dimension que nous pourrons donc connaître une fois ascensionnés par vibration égale. Alors, Ce qu'il faut comprendre, c'est que un certain nombre d'intraterrestres sont forcément. Alors, les intraterrestres, c'est minima 4D, c'est le minima syndical, on va dire. Hein. Des intraterrestres 3D, ça n'existe pas. Déjà. Sauf certains petits envahisseurs qui se sont fait déloger, qui sont en train de se faire déloger lourdement. Donc ceux-là, ils sont venus nous squatter, mais comme dirait l'autre, ils ne peuvent pas en rester, parce que ben, comme la Terre est en train de passer en 4D, ils sont les premiers à être agités. Donc, ils sont forcément de 4D, de 5D, mais ils vont jusqu'à la 13D. Donc, d'abord, ça va dépendre de leur mission, parce que, comme on peut dire, au niveau d'Urantia Gaïa, elle a besoin d'avoir des coups de main sur certains plans, sur certaines fréquences. Donc ils sont là pour faire leur job. Hein. Donc nous, nous sommes venus ici nous incarner, comme on dirait l'autre, en lointaine périphérie, hein, puisque nous sommes à l'extérieur, on va dire, de la croûte terrestre, et donc dans la densité la plus lourde, la plus loin du cristal d'Urantia Gaïa. Donc ça, c'est déjà une chose, mais il faut savoir que d'autres entités sont bien sûr à l'intérieur, mais qu'elles proviennent toujours aussi des autres constellations, mais avec des fréquences autres, c'est-à-dire qu'ils sont en 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à la 13D. Hein? En effet, ben, comme je vous avais dit, de la 1D à la 12D, ça va, on va dire, de la planète jusqu'au Soleil, et donc la 13D, c'est qu'on touche notre grand soi. Et donc, c'est pour ça que les intraterrestres qui sont en 10, 11, 12, voire 13D sont les êtres les plus élevés, bien sûr, vibratoirement, mais il ne peut pas y avoir des êtres de 14, 15, 16, 17, 18D, puisqu'ils ne pourraient pas être dans Urantia Gaïa, puisque Urantia Gaïa n'a pas cette fréquence et ne peut l'avoir pour l'instant, sinon elle n'existerait plus matériellement. Donc la 13D, je me rappelle qu'elle commence à partir du Soleil en direction de Grand-Père Alcyone. Donc ça va de la 13 à la 24e D. Donc on peut dire que nos copains, nos potes, nos frères intraterrestres qui sont en 13D sont en fait en 12D avec des accès en 13D, c'est-à-dire qu'ils arrivent encore à se maintenir, entre guillemets, dans la vibration matérielle. Mais ils en sont extrêmement limites. Donc, Urantia Gaïa a besoin de leur aide pour bien sûr pousser toutes les fréquences. Hein, comme nous le faisons simplement quand nous nous connectons à notre soi supérieur. Lui, il est de la 7 à la 12D. Donc, le fait d'être en contact avec notre soi supérieur nous permet la même chose. Hein, donc, pour Urantia Gaïa, c'est la même chose. Mais avec les intraterrestres, puisque nous, on est simplement les gamins dans le bac à sable dehors. Donc, quand nous, on arrivera, je dirais, à ces dimensions-là, ben, je dirais que la planète Terre n'aura plus lieu d'exister. Tout simplement. Parce que quand on passe en 13D, ben, on n'a plus besoin de corps physique. Tout simplement, définitivement. Pourquoi s'emmerder, hein? Alors, l'autre chose, c'est pas parce que nous passerons en 5D que nécessairement on sera invité chez nos potes intraterrestres, chez tout le monde, pas du tout. C'est pas parce que vous arrivez, vous vous êtes passé du 3e étage de l'immeuble au 5e que celui du 12e il va vous recevoir et faire la fête. Non, vous vous rapprochez de lui, il sera moins loin, on est d'accord. Vous bénéficierez mieux de ses vibrations, c'est-à-dire moins, bah, vous aurez moins de bordel de ceux qui sont dans les étages inférieurs, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vous inviter à leur table. Hein, parce que rappelez-vous que même si nous passons en 5D, tout ce qui touche à la 5D, 6D va être un décrassage réel et sérieux de tout ce qui nous a bloqué en 3D, 4D. Il n'y aura plus de karma, on est d'accord, hein? Mais c'est-à-dire que là, on change de carnet de notes, hein? C'est-à-dire on a changé d'école, d'établissement, donc le carnet de notes, on n'a plus rien à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des faiblesses et qu'on n'aura pas des choses à travailler. Donc on va compléter, on va dire, notre formation. C'est-à-dire que globalement, le passage, enfin la vie que nous aurons en 5D, 6D, sera en fait le mariage véritable avec notre soi supérieur, puisque c'est le moteur du siège, je le rappelle. Et donc, c'est là que nous allons découvrir toutes les capacités du cinquième chakra, c'est-à-dire la co-création consciente, et de toutes les capacités de voyage interdimensionnel qui s'appelle la 6D. Donc, notre objectif aujourd'hui, d'être en 4D ou de basculer complètement en 4D, c'est d'abord écouter notre cœur, c'est-à-dire écouter notre soi supérieur. Donc ça, c'est déjà un super grand pas. C'est-à-dire de dire, ah ça y est, j'ai un grand frère, et c'est lui, je vais lui prendre la main, et je vais l'écouter à 100%. Vous savez, c'est déjà un très 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 grand pas. Mais une fois que cela sera fait, eh bien, nous allons avoir à travailler en 5D, 6D, dans cet espace-temps 5D, 6D, pour faire un avec notre grand frère. Quand je dis un avec notre grand frère, ça sera en fait d'avoir une taille matérielle équivalente à sa taille spirituelle, on va dire globalement. Hein. C'est-à-dire que on fasse un véritable mariage avec lui. Donc voilà, c'est ça la résurrection. Hein. C'est-à-dire on ressuscite. C'est-à-dire on revient à la vie. Et à la vie de quoi? Pas à la vie de terrien aveugle et borné. Non, on revient à la vie de ce que nous sommes véritablement. Une question de Catherine concernant le corps physique et les chakras. Alors, la question de Catherine. Ablation partielle de la thyroïde, cela modifie-t-il définitivement le fonctionnement harmonieux de mes chakras? Bah, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que matériellement, c'est comme dans une voiture, faut savoir que tout ce que nous avons en nous, c'est pas que des options, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on est venu avec un minima syndical et que ce minima syndical, si on continue à le charcuter, ça va avancer de moins en moins bien. Alors là, tu parles d'une ablation partielle de la thyroïde, ce qui veut dire, bon, il reste encore, c'est comme le filtre à air, hein. Si on en retire la moitié, bon, ben, ça va filtrer deux fois moins. On est d'accord, mais ça filtre quand même, mais deux fois moins. Si on avait fait l'ablation totale de la thyroïde, là, ça serait nettement plus grave. Donc, effectivement, ça modifie, c'est mécanique, mais quand on sait que le filtre à air, il en manque la moitié, ou que sur deux filtres à air, il n'y en a plus qu'un, ben, on fait moins le con avec la voiture, quoi. On va pas lui demander la même chose que si on avait les deux filtres à air. Donc, on peut conduire harmonieusement le véhicule à la condition de s'adapter effectivement aux capacités du véhicule. Donc, un véhicule qui a été amputé, ben, il faut faire avec l'amputation. Pour l'instant. Puisque quand nous passerons effectivement en 5D, tu auras plus de problèmes. Puisque, bon, je l'ai déjà plus ou moins dit tout à l'heure, grosso modo, on va nous refiler une nouvelle voiture toute neuve. Donc, c'est juste une histoire de temps, comme on dit. Caroline, concernant les personnes qui ont un pacemaker, stimulateur cardiaque, je me demandais comment cela se passait au niveau des fonctions du cœur, sur un plan émotionnel, spirituel en général, dans le sens où l'on dit que tout part du cœur et que l'on crée à partir du cœur. Alors, là, on a le droit à une confusion dont j'ai parlé dans un article, c'est qu'il ne faut pas confondre le muscle cardiaque avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, ça s'appelle le thymus. Et le thymus, c'est pas la pompe cardiaque. Donc, grosso modo, que tu aies un pacemaker ou pas, écouter son cœur, c'est écouter son thymus. C'est pas écouter le muscle cardiaque. Hein, j'espère m'être fait bien comprendre. Hein. Si votre cœur s'ouvre, c'est votre thymus qui s'ouvre. C'est pas votre muscle cardiaque. Le muscle cardiaque, c'est une pompe. C'est l'aspect matériel, entre guillemets. Hein? Mais c'est pas l'aspect vibrationnel. Et votre chakra du cœur est relié à une glande. Le cœur n'est pas une glande. Je le rappelle. Alors, gérer le mental. Une question de Brigitte. Pour obtenir une pause du système de pensée et une vigilance démultipliée, le regard intérieur est-il posé à un endroit particulier du corps comme le chakra 3? Alors, je pense que Brigitte doit être fortement orientée méthode asiatique, Hein, puisque obtenir une pause du système de pensée, ça veut dire grosso modo arriver à ne plus avoir aucune pensée. Donc ça déjà là, c'est un truc qui n'est pas évident. Et une vigilance démultipliée, ça veut dire que là, tu as une conscience qui est consciente que là, tu es conscient de tout à la fois. Hein, bon. Sincèrement, là déjà, on est dans une spiritualité totalement mentalisée. Et donc, forcément, comme elle est mentalisée à fond, eh bien, le regard intérieur est-il posé à un endroit particulier du corps? Pourquoi regarder la matière? Enfin, comment dire? Pourquoi faire la relation entre une vacuité, une conscience de l'unité, avec l'observation d'une partie du corps? Je vois pas, franchement. Hein. Donc, il n'y a rien à observer pour atteindre un nirvana ou une absence de pensée, parce que tout ça, ce sont des techniques totalement illusoires. Ayant été marié avec une Asiatique née ailleurs, c'est seulement quand on s'est marié que je l'ai ramené avec dans mes valises. Donc je ne parle pas d'une personne asiatique née en France qui parle français couramment comme tout le monde. Non, non. Je parle d'une vraie asiatique née et qui a grandi dans un bocal totalement asiatique. Eh bien, je peux vous dire sincèrement qu'il n'y a aucune relation. J'ai rencontré beaucoup de gens de ces milieux, hein, puisque ça faisait partie de la famille d'une certaine manière. Je peux vous dire que ce soit leurs zazen ou tous leurs trucs asiatiques, grosso modo, leur taux vibratoire n'était pas plus élevé que le mien, voire même inférieur. Donc, aucune relation. Je veux dire, il faut arrêter de croire que l'Asie a quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Parce qu'on était tellement occidental en pleine guerre froide que c'est sûr que poser son cul et dire je vais devenir Bouddha, ça changeait un peu quand même. On est d'accord. Mais aujourd'hui, tout ça s'est dépassé. Ok? C'est dépassé. Donc il faut sortir de cette illusion. Hein, ça, j'en ai déjà parlé dans des articles. Toutes les philosophies asiatiques, même mène au même résultat que toutes les religions ou philosophies occidentales, c'est-à-dire la mort, l'extinction de l'individu. Simplement, la manière n'est pas la même. Mais ils arrivent tous au cimetière, de toute façon. Hein? Donc, faut arrêter de croire que on peut passer d'une illusion masculine à une illusion féminine. Bon, certes, il y a un progrès, on est d'accord. Puisqu'on découvre le côté féminin, on est d'accord, mais arrive un moment, il faut découvrir que quand même ils appartiennent à une illusion qui est la même. Voilà. Donc, pour répondre à Brigitte, il n'y a aucun endroit particulier à regarder et qu'il faut surtout pas essayer de contrôler ton système de pensée. Et ça, je pense là en avoir parlé dans un article, comme d'habitude. Les pensées proviennent des émotions et les émotions proviennent de quoi? De quoi proviennent les émotions? Eh bien, de ton système de croyance et donc de ton mental ego. Donc, du jugement. Si tu ne juges plus, tu n'auras pas d'émotion. Et si tu n'as pas d'émotion, il ne sera pas généré de pensée. Donc, au lieu d'essayer par le mental ego, c'est-à-dire le jugement, d'arrêter, je dirais, les coincements émotionnels afin de ne plus avoir ce fourmillement de pensée continue, ben ça joue pas quoi. Ça peut pas jouer. Non-jugement amènera une neutralité émotionnelle. Et cette neutralité émotionnelle amènera à son tour une absence de pensée. Donc la vacuité commence déjà par le non-jugement. La vacuité du jugement. Après, ça vous amènera une vacuité du sentiment, enfin du sentiment de l'émotion, qui vous amènera une vacuité des pensées. Mais si vous essayez de faire autrement, ça ne roulera pas. Alors, étoile bleue, comment faire la différence entre une construction du mental et une vraie info? La réponse basique, écoute ta petite voix, écoute ton cœur, discerne. Discerne non pas avec tes neurones, mais avec la vibration, et tu sauras. Donc, une vraie info, ça veut rien dire, parce qu'une info reste une info. Qu'elle soit vraie ou fausse, ça, c'est toi qui l'interprètes. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus ce soir, mais globalement, tu me donnes n'importe quelle info, je t'en présente tous les bénéfices, entre guillemets, en disant qu'elle est putain, elle est méchamment vraie, mais je peux te faire le même exercice en disant qu'elle est méchamment fausse. Et dans les deux cas, la même info. Ce qui veut dire qu'une info est neutre. Ce qui n'est pas neutre, c'est notre jugement par rapport à celle-ci. Notre analyse par rapport à celle-ci. Donc ne cherchez pas à, comment dire, à vous dire est-ce que cette info elle est vraie ou pas. Ne cherchez pas dans le sens mental du terme. Donc là, on revient au discernement basique, hein, c'est-à-dire ressentez. Si ça va pas, s'il y a un truc qui va ou pas, c'est que c'est pas pour vous. Et donc considérez que c'est. Qu'elle n'est pas fausse, elle n'est pas forcément fausse cette information, mais qu'elle ne vous concerne pas. C'est différent. Si elle vous concerne, ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Véhicule de lumière, une question de Patrick. Y a-t-il un rapport entre les derviches tourneurs qui tournent le sens inverse des aiguilles d'une montre et le sens de rotation de la mer qui va des mâles? Comment faire pour freiner l'effet involutif? Alors. La chose est claire. Donc, pour résumer, hein, le sens évolutif, c'est le sens anti-horaire, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Ça, c'est le côté féminin. Et donc, forcément, par exemple, toute femme, je l'ai dit, donc la mère Kaba, alors bon, c'est pour être plus précis, c'est la mère Kiva, tourne dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire que les femmes tournent dans un sens évolutif. Si elles ne tournaient pas dans ce sens, elle ne pourrait pas enfanter. Voilà pourquoi un mâle ne peut pas enfanter. Enfin, je veux dire, tomber enceinte. Donc lui, pourquoi? Parce qu'il est dans un sens involutif. C'est-à-dire qu'il sens, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que vous regardez la montre, eh bien, vous regardez tout simplement le sens masculin. Et donc forcément, la mère Kaba, hein, ou la mère Kiva, si vous voulez, d'un homme, par définition, tourne dans le sens horaire. Alors la question de Patrick, c'est de dire mais comment qu'on fait pour freiner parce que bon on va pas dans le bon sens. Eh bien c'est un petit peu, je vais donner une explication pas technique mais juste pour faire comprendre. C'est comme si je prenais un hélicoptère et je dis ben voilà je fais tourner les pales dans le sens trigonométrique, enfin anti-horaire, ou je les fais tourner dans le sens horaire. De toute façon, l'orientation des pales va faire que l'hélicoptère va décoller. Donc aujourd'hui, qu'on soit un hélicoptère mâle ou un hélicoptère femelle, ben ça vole quand même. Le seul truc, c'est que si tu regardes bien, même si notre Merkaba ou Merkiva tourne dans un sens, eh bien il y a l'effet ce qu'on appelle contre-rotatif. Si tu regardes bien les derniers cris des hélicoptères, ceux qui veulent une stabilité beaucoup plus grande, ont en fait deux paires d'hélices. Enfin deux paires. Ça dépend des avions, il y en a, ils en ont quatre, mais c'est-à-dire qu'il y en a une qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est-à-dire ce sont des pales contre-rotatives. Donc ça veut dire que quand tu regardes l'hélicoptère, tu as une paire d'ailes qui tourne dans un sens et tu as l'autre paire d'ailes qui tourne dans l'autre sens. Et le résultat, ça vole encore mieux. En clair, si tu veux freiner ton effet involutif, sois contre-rotatif, c'est-à-dire équilibre ton masculin et ton féminin. Au lieu d'avoir des pales qui sont uniquement féminines, enfin masculines, eh bien développe les féminines. Et donc tu auras l'effet contre-rotatif. En ayant cet effet contre-rotatif, tu ne seras pas en évolutif ou en involutif, tu seras dans le meilleur rendement qui soit. Que se passe-t-il au niveau des Merkiva entre un homme et une femme en 3D, 4D ou 5D? La question est intéressante. Le problème, c'est que ça va prendre du temps pour en débattre. Donc là, je ne vais pas le faire. Hein. Mais c'est vrai qu'en 3D, si je reprends l'effet de l'hélicoptère, si tu en as un qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre, ben, comme dire l'autre, il va y avoir des ratés, puisqu'ils sont sur le même plan. On est d'accord. Quand ils sont en 4D, ça veut dire qu'ils commencent à être dans contre-rotatif tous les deux. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, les deux hélicoptères, même quand ils sont au même niveau, eh bien, peuvent, quand même niveau décalé légèrement, peuvent en fait céder énormément. Et quand c'est en 5D, alors là, c'est la classe de tout, hein, puisque quand ils sont en 5D, il n'y a même plus besoin de l'hélicoptère. C'est-à-dire que les deux pilotes sont à terre, ils s'allongent, ils rêvent, et ils sont en hélico, simplement les hélicos ne sont plus matérialisés. Et donc là, on ne risque plus d'avoir des chocs et des étincelles entre les pales des hélicoptères. Enfin, j'espère avoir répondu à la question comme ça. Changement de fréquence, une question d'Isabelle. Est-ce que le changement de fréquence peut provoquer des amnésies partielles, ponctuelles, comme un effacement de données pour en inscrire d'autres ? Expérience qui m'est arrivée et a duré 1h30, et puis tout est revenu avec comme un espace différent dans le crâne. Alors, effectivement, quand il y a des changements de fréquence, c'est-à-dire que tu as un moteur, et on dit, bah tiens, on va le passer de 50 Hz à 60 Hz. C'est sûr que le temps de passage, il y a un décalage, mais simplement après, on ne comprend pas. On se dit, putain, yo, tout est revenu. Mais je vois comme un espace différent. Bah oui, c'est passé du 50 Hz au 60 Hz. C'est comme ton disque dur de l'ordinateur. On change la fréquence du processeur, mais on n'a pas changé les informations qu'il y a sur le disque dur. Donc le temps de faire le changement, bah, il y a un arrêt un peu du système. Et puis bah, quand on rebranche tout, bah, ça tourne plus vite, quoi. Mais l'information est toujours la même. Mais simplement, ça bosse plus vite. Voilà. Donc, c'est parfaitement normal. Connexion, une question de Catherine. Coup de poignard au niveau de mon cerveau droit. Vous dites entité, ça veut dire... Il semble me rappeler qu'à une époque, j'avais parlé que, effectivement, quand on se faisait, entre guillemets, squatter par une entité, ça allait nous taquiner du côté du cerveau droit. Pourquoi le cerveau droit ? Parce que, en fait, c'est la partie féminine de votre cerveau. Vous avez le cerveau gauche qui est la partie mentale 3D, alors que la partie droite c'est la partie féminine 4D. Et donc forcément, dès que vous commencez à vouloir jouer de la 4D, eh ben, y en a compris les armes, hein, de l'autre côté dans la partie invisible, et puis qui essayent de vous bastonner sur le côté, bien sûr, du cerveau droit. Donc quelque part, ils essayent de cogner d'une certaine manière sur les antennes. Et donc, vous sentez. Donc, c'est quand on dit des coups de poignard, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que vous subissez une attaque directement, entre guillemets, parce que je vous rappelle que le cerveau, hein, c'est le système nerveux. Hein, c'est-à-dire que votre mental ego, il est dans votre cerveau. Hein. On n'est pas dans la 6D là-haut. Hein. Non, c'est de la 3D. Donc, votre cerveau, il est en pleine 3D là. Hein. Donc, d'une certaine manière, vous avez donc, quand on ressent des choses dans le cerveau droit, hein, dans l'hémisphère droit, pour être plus précis, eh bien, c'est que bah, y en a qui essayent de taper sur les tuyaux, soit pour les casser, soit pour les déloger, mais les dérouiller, les décalcariser. Mais généralement, c'est plus pour détruire que pour... Donc, c'est pour ça, quand on dit entité, c'est que bah, vous avez des énergies qui essayent de vous trafiquer. Voilà. Technique et protocole. Fleur de soleil. Les protocoles, voire sites autres dimensions, sont-ils encore utiles en ce moment ? Bah écoutez, moi je pense que chacun doit jouer de son discernement. Si vous êtes encore au stade qu'il vous faut des protocoles, c'est-à-dire une façon... mécanique, on va dire, d'évoluer, d'augmenter votre fréquence, faites-le. Le jour où vous sentez que ça vous gonfle et que vraiment vous ne pouvez plus, bah écoutez votre petite voix et ne le faites plus. C'est aussi simple que ça. Tout protocole en soi n'est ni bon ni mauvais. Le problème, la vraie question, c'est est-il adapté à vous ? Donc, si vous avez un diesel, on vous mettra de l'huile pour moteur diesel. Mais si on essaye de vous mettre de l'huile pour moteur essence, vous allez peiner quelque part. Donc, résultat, il y a des protocoles qui sont utiles pour certaines personnes, et puis, arrive un moment, ben, comme dira l'autre, quand le niveau est plein, ben, ils n'en ont plus besoin. Donc, il faut savoir écouter son cœur et non pas sa tête. Et donc, si vous sentez que certains protocoles, vous n'en avez plus besoin, ben, vous les balancez par-dessus bord. C'est pas compliqué, hein? Donc je ne dis pas que les protocoles sont bons ou pas bons. La question sont-ils adaptés à vous et sont-ils encore valables pour vous? Voilà. Une question de Louise. Le mot tantra revient toujours à moi cette année. Il n'y a pas une semaine presque où je n'en entends pas parler. Qu'est-ce que cela peut bien apporter au juste et pourquoi cela vient à moi toujours? Ben, c'est simple, on attire ce dont on a besoin, c'est-à-dire ce dont on a la fréquence. Donc, si en toi il y a une notion de tantrisme, hein, c'est-à-dire que il faut savoir que dans l'être humain il y a certains canaux, hein, c'est-à-dire que il y a en fait trois canaux tantriques chez l'être humain. Et donc, si un, deux ou trois de ces canaux tantriques sont activés dans ton corps énergétique, eh bien, quelque part, il te faut faire l'expérience du tantrisme. Hein? Donc, si par contre, dans ton circuit énergétique, ces canaux ne sont pas activés, eh bien, le tantrisme, tu passeras à côté, ça ne résonnera pas en toi. Donc, si aujourd'hui, tu dis, tu viens toujours à moi cette année, si cette année, le tantrisme, t'en entends parler partout et tu passes pas une semaine sans en entendre parler, c'est que c'est urgent pour toi d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. C'est ta petite voix qui dit, écoute, là, t'as vu, là, c'est-à-dire qu'il te fait porter l'attention sur une chose extrêmement importante pour ton développement personnel, hein, pour ton augmentation de fréquence. Donc, suis la musique. Va plus loin, sois ouverte par rapport à ces choses-là et va voir ce qui se passe. Et fonction de ce que tu ressentiras, bah tu verras qu'est-ce qui se passe. Tout simplement. Hein? Rappelez-vous, nous sommes tous uniques. Nous avons tous une circuiterie bien précise avec des options d'activer. Donc si vous avez des options, hein, il existe 36 canaux, il y en a 3 qui sont tantriques. Donc vous voyez, ça fait pas beaucoup. Hein, mais il suffit qu'il y en ait un pour que ça vous chatouille. Quand vous en avez deux, alors là, ça devient inévitable. Mais alors à trois, ça va être une question essentielle pour votre vie, on va dire. Hein? Donc voilà. Alors.